J'y vais le pod numéro 108. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de JV le Pod, consacré du coup au numéro 108 de JV Culture Jeux Vidéo, numéro de juin 2024. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2024, c'est la Saint-Kevin, du coup j'en profite. Je profite de cette tribune pour souhaiter une bonne fête à Kevin Bitterlin, ici présent.
Merci. Je ne sais pas quoi dire.
Bah non, mais c'est l'émotion.
C'est ça, tu me prends par surprise. C'est un peu comme aux enfants de la télé, tu sais, quand tu me montres une vieille vidéo de moi ou un truc comme ça. Trop d'émotions. Bonjour en tout cas.
Et bonjour Christophe, c'est pas ta fête?
Non, pas encore.
Bah tant pis.
Mais bonjour quand même.
Bah ouais, je sais pas. Bon. On va parler donc aujourd'hui de ce numéro de juin de JV avec Hellblade 2 en couverture. Mm-hmm. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Cette couverture, elle n'a pas le même aspect que d'habitude.
Mais pourquoi?
C'est vrai.
D'habitude, on utilise un vernis qui s'appelle le Soft Touch.
Tout à fait.
C'est pas nous qui avons inventé, ça s'appelle vraiment comme ça.
C'est ça, c'est pour se frotter le visage dessus.
Pour se démaquiller.
Oui.
C'est un petit vernis qui donne un effet un peu peau de pêche, si vous voulez, un peu doux. Mais qui a aussi la fâcheuse tendance à assombrir les images. Mmh. Et il se trouve que l'illustration qu'on a choisie ce mois-ci pour illustrer Hellblade 2 est très sombre. C'est pas un jeu...
Hellblade 2, de manière générale. Hein.
C'est pas un jeu que l'on peut qualifier de solaire, par exemple.
Pas vraiment.
Et très vite, avec les gens qui s'occupent de la partie technique chez l'imprimeur, on s'est un peu posé la question en disant, sur la couve... est-ce que vraiment, autant sur l'écran, ça rend bien, il y a des contrastes un peu entre les côtés éclairés du visage de Senua et l'arrière-plan, autant l'impression, moi j'avais un peu peur, et donc c'est l'imprimeur qui nous a conseillé d'utiliser une autre sorte de vernis, un vernis plutôt brillant, pour faire ressortir ce contraste. Et donc on a accepté, et on a reçu le truc, c'est vrai que je pense que c'est le très bon choix, c'est vraiment un choix qu'on a bien fait de faire, parce que sinon... ça aurait juste été une image un peu noire, quoi.
Oui. Ben non, mais c'est vrai que c'était l'inquiétude, sachant que en général, quand on utilise un visuel comme ça fourni par l'éditeur, déjà nous, on ne les retouche pas parce que c'est pas du tout notre façon de faire. Et après, il y a différentes latitudes au niveau des consignes qui sont données, pour savoir si on peut un peu aménager, un peu machin.
Légèrement altérer l'image.
Ah voilà. Là, clairement, ils nous avaient dit non, on touche à rien. Donc bon, notre inquiétude, comme tu mentionnais, était renforcée.
Je l'ai un peu éclairci. Enfin, j'ai joué un peu sur les niveaux, essayé d'essayer de faire en sorte que ça ressorte bien, mais j'ai pas pu non plus trop y toucher. On a dû montrer un peu patte blanche, leur dire oui, on va la retoucher un peu, mais pas trop. Mm. Et donc, au final, moi, je suis quand même assez content du résultat. Ça ressort bien. On a bien le rendu voulu par l'image. Avec ces tons bleus là, voilà, c'est pas le même toucher que d'habitude, ça donne. Donc c'est pas le papier qui a été changé, c'est juste le vernis. Et donc a priori le mois prochain, on retournera à notre soft touch habituel.
Bah, sauf si on choisit
Hellblade
3.
Hellblade 3.
Ou, dans une grotte.
Black screen the game, voilà. On verra. Mais oui, ça c'est quelque chose. J'en parle pas forcément beaucoup, mais moi je retouche quasiment toutes les images qui paraissent dans le mag. Parce que les jeux vidéo d'aujourd'hui, sachez-le, sont très sombres. On est dans l'âge Bresson, parce que probablement on est
quartier Bresson.
Devenu adulte et tout. Mais non, mais les jeux en général sont très sombres. Et ce sont des œuvres qui sont faites pour être vues sur un écran. Hein. C'est un petit peu le concept du jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mmh. Mais à l'impression, il faut se méfier, ça a tendance à très vite être qu'on appelle bouchonné.
Mais moi, je t'ai donné des belles images de Botany Manor.
Heureusement qu'il y a Bubu pour jouer à Botany Manor.
Voilà. Qui est un poil moins sombre. Un poil moins
ténébreux. Mais oui, voilà. Moi, je retouche quasiment toutes les images. Alors, des fois, c'est pas évident parce que je sais pas à l'avance ce que ça va donner. Mais j'essaye de faire en sorte que le rendu soit meilleur. Quand, à une époque, quand on avait dû changer de papier et que le papier était de moins bonne qualité, c'était assez affreux.
Ah oui,
le
oui.
rendu des couleurs était abominable. Donc déjà, je suis très contente qu'on ait pu revenir à un papier de meilleure qualité. Et donc voilà les petits coulisses. Et puis là, je suis en train de regarder pour le dossier de, où on parle d'Elbed. Ça va, les images rendent plutôt bien.
Bravo, Sophie.
Bah écoutez, je suis assez contente de ça, oui.
Mais oui.
Ce dossier, justement, ce dossier sur Hellblade 2.
Yes, bah, il s'articule évidemment autour de la critique, puisque le jeu est sorti il y a quelques jours maintenant. Une double critique donc, entre Arnaud et moi, qui avons plutôt été emballés avec quelques réserves. On vous laissera découvrir ça dans le magazine. Mais bon, évidemment, on ne s'est pas contenté de faire la critique. On avait plusieurs papiers un peu sous le coude. Moi, je voulais raconter un peu le parcours de, bah, du studio Ninja Theory, parce que c'est un studio qui a vécu mille vies. Alors, c'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais en l'occurrence, c'est vrai de studio de monté par deux potes qui voulaient juste faire du kung-fu à la base à... être un peu auto-propulsé comme vitrine technologique de la PS3 avec Heavenly Sword, puis des jeux un peu comme ça, un peu façon Platinum Games, c'est-à-dire où tu soumets le pitch à des éditeurs et tu vois qui répond. Donc ils sont passés avec Capcom, ils sont passés pour faire le reboot de DMC, ils sont passés avec Bandai Namco pour Enslaved, avant de partir full indé à partir de Hellblade, et finalement d'être acheté par Microsoft. Donc voilà, ils ont vraiment beaucoup navigué sur l'océan vidéoludique. Et donc voilà, c'était un peu pour raconter ça, un peu les hauts et les bas. Et ensuite, alors on a un papier assez, assez original qui est en fait une sorte de vue subjective qui a déménagé de son emplacement habituel pour s'inclure dans ce dossier. Où, donc on a Jean-Baptiste, un nouveau pigiste, qui voulait revenir sur le premier épisode. Donc ça s'inscrivait bien dans le cadre de ce dossier. Et ensuite, bah, tiens Bubu, je vais te laisser en parler. On a voulu parler de la psychose et de la manière dont elle était mise en scène dans le jeu vidéo, pas forcément dans Hellblade, hein, mais de manière générale dans le jeu vidéo.
C'est à moi.
Bah, si tu veux, oui.
Bonjour Christophe.
Bonjour. Oui, non, mais bon, on était parti un peu de l'idée du modèle qu'on avait fait sur la comédie il y a quelques mois, en essayant de voir des jeux qui traitent de la psychose. Après, la difficulté, c'était un peu de pas de se substituer à un psychologue ou quelque chose comme ça en faisant une analyse de ce que peuvent vivre les personnages ou mettre des noms sur des choses qu'on maîtrise pas du tout. Donc, ouais, comme tu l'as dit, c'était plus une manière de voir comment le jeu vidéo se sert de ces différents troubles psychiques pour créer de la narration, même du gameplay par moment et de la mise en scène. Et on a choisi, donc, je ne sais plus, une quinzaine de jeux à peu près qui reviennent là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une faute ?
Non, ce n'est pas une faute, c'est une... Une comment on appelle ça ?
On n'appelle pas ça, c'est non, il y a rien du tout. Il y a une petite erreur de maquette.
Il manque un saut de ligne.
Oui, bien sûr.
Mais ça c'est
ça se réglera en commission de discipline.
Non, mais c'est probablement la faute à la personne qui a fait le calage derrière.
Ah, oh, comme ça on accuse
et renvoie la patate chaude.
Non, puis les gens qui ont relu derrière, qui n'ont pas vu, enfin bon, bref.
Non, mais c'est pas grave parce que.
Non,
là,
mais regarde ce que j'ai dit. Voilà,
sur la page.
Il y en a un trop la page après. Oh là là, il a été difficile ce numéro. Bah écoutez, peut-être que j'étais fatigué.
Non, mais ce sont des mathématiques.
Du coup, ça s'équilibre. Ça, voilà, en moyenne, les sauts de ligne sont bons.
Oh, wow. Ouais.
Je te trouve bien. Hein?
Ah, moi, c'est le nouveau moi. C'est quand c'est ma fête.
C'est vrai.
Le jour où c'est ma fête, j'ai le droit de
faire celle des autres aussi.
De critiquer la maquette. D'un coup, j'ai une sorte de fibre artistique qui se développe.
D'un seul coup, je vois ça. Et là, écoutez, le numéro est cancel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ?
C'est pas grave, Sophie. Je te dis, nous réglerons ça hors antenne.
J'aurais un blâme. Et oui, sinon, Christophe, tu disais.
Comment le jeu vidéo parle de psychose et s'en sert pour.
Ce qui était intéressant
pour faire
aussi,
du jeu vidéo, quoi.
C'est ça, c'est que avec le premier Hellblade, ils avaient, ça faisait presque partie de l'argumentaire marketing, c'est qu'ils s'étaient entourés de psy pour essayer justement de représenter des choses à peu près vraisemblables à travers ce que traversaient ces noix, aussi bien au niveau des voix que des choses qui, mises en gameplay, étaient assez inintéressantes, mais qui paraissait cohérente, c'est-à-dire le fait de voir des signes, des symboles dans le décor, etc. De remarquer comme ça des choses un peu disséminées. Effectivement, à jouer, c'est pas fou, mais voilà. Et ça faisait partie de ce travail-là, et on a essayé de voir comment d'autres jeux pouvaient faire des choses analogues. Et c'est vrai que moi j'avais assez vite pensé à Black Ops.
On parle de We Happy Few, Deadly Premonition.
Deadly Premonition, évidemment.
Silent Hill, évidemment.
Ouais. Après, la liste aurait été très très longue. Le Batman aussi, le Arkham Knight le faisait très bien. Donc voilà, c'est un petit almanach comme ça de crise psychotique. Vraiment, oui. C'est un numéro hyper joyeux.
Par exemple, hors de ce dossier de couve, on a aussi notre train de la hype, on revient sur l'actu.
Tout à fait.
Le premier papier, c'est toi, Kevin, ça s'appelle juste La Crise.
Ouais.
Pareil, on met une espèce d'ambiance, on sent qu'on...
C'est ça.
Ouais.
Oui. C'est compliqué, en fait... Donc bon, la crise, quand je parle de la crise, c'est la crise que traverse, on va dire, le monde du jeu vidéo actuellement. Nous, c'est compliqué d'en parler parce que on peut pas faire des papiers à chaud à chaque fois qu'un éditeur ou qu'une boîte annonce
des
licenciements ou des fermetures de studios, etc. Parce que je veux dire, on arrive après. Donc on essaye plus de faire des regroupements. Mais là, quand il y a eu les annonces autour de Microsoft, donc qui fermait 4 studios quelques mois après avoir annoncé beaucoup de licenciements, on sait qu'aussi en France, il y a eu des fermetures d'antennes avec Bethesda, etc. Enfin, je sais pas, j'ai eu un moment... C'est vraiment un biais d'humeur, c'est pas une analyse, on va dire... j'ai pas demandé, j'ai pas plein d'intervenants qui viennent m'expliquer le contexte, c'est plus vraiment une réaction un peu à chaud où j'ai essayé de mettre des mots sur tout ça et peut-être de trouver aussi des raisons. Donc moi je cible deux choses principalement, toujours en partant de Xbox. De manière générale, moi je trouve qu'il y a eu trop. En fait. Il y a eu trop de volonté de faire le jeu définitif, le jeu service ultime, qui, en fait, c'est comme tout, quoi. À partir du moment où tu offres un service qui se substitue à tous les autres, tu ne laisses pas de chance à tout le reste. Donc, pour moi, ça, c'est un vrai problème et on le voit encore. Enfin, là, on a assisté il y a quelques jours au State of Play de Sony où le premier jeu sur lequel ils ont insisté, c'est encore un fourre-tout incompréhensible de jeux service multijoueurs, etc. À mon avis, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ouais. Et c'est court-termiste, en fait, comme vision.
Et comme beaucoup de... Enfin, c'est les tendances dans l'industrie en général.
Ouais, je sais. C'est le... En fait, je dis que Fortnite a fait beaucoup de mal de manière indirecte en fait, au monde du jeu vidéo parce que tout le monde a voulu avoir son Fortnite.
Faire son Fortnite.
Sachant que, oui, c'est comme ça, il y en a un. Peut-être que c'est facile de dire ça après, mais moi j'aurais eu tendance à dire qu'il fallait faire exactement l'inverse en fait.
Ouais.
Pour justement, à partir du moment où tu as quelqu'un qui arrive en situation de monopole, tu cherches pas à avoir. Un deuxième monopole, cherches à partir dans des niches faire grossir les niches. Quoi.
Comme toute la vague des MMO à la grande époque de World of Warcraft.
Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça paye un peu ces pots cassés-là. Quoi. Et pareil, presque en forme de mea culpa, je parle du Game Pass qui, lui aussi, en fait, est très bien pour les consommateurs, mais qui est une sorte de... Comment dire? Enfin, qui fait autant de mal que de bien, en fait. Qui fait beaucoup de bien aux consommateurs, mais derrière, c'est difficile de s'y retrouver en tant que développeur. C'est assez flou et c'est pas un modèle sain. Et, en fait, c'est quelque chose qui marche bien pour avec Netflix et tout ça, mais qui est pas forcément applicable au système vidéoludique, quoi.
Bah, ou même, je pense à la musique aussi. Hein. On sait que tout ce qui est Spotify et compagnie, c'est très pratique pour nous et consommateurs, mais que les artistes touchent que dalle. Mmh. C'est tout un. Là, ça dépasse complètement même le jeu vidéo. C'est vraiment le.
Bien sûr.
Les industries du divertissement en général.
Donc voilà, bon, c'est clairement pas le papier le plus étayé qui soit. C'est plus une sorte de petit coup de gueule que j'étais en. J'avais sur le cœur et j'avais eu besoin de le coucher sur papier.
Eh bien, ça tombe bien. Nous avons besoin d'avoir des textes à mettre sur du papier.
Bah oui,
ça c'était plutôt bien tombé. Bah,
sinon on aurait fait 98 pages quoi.
Bah voilà.
Le monde, on serait complètement chamboulé.
Du coup, on a écrit d'autres trucs sur d'autres pages.
Bah ouais, tant qu'à faire.
Par exemple, alors je vais beaucoup le dire ce mois-ci, mais une nouvelle plume.
Oui.
Une nouvelle plume est arrivée. Yael Kuntz qui nous a écrit un papier sur Amour sucré.
Tout à fait.
La suite d'Amour sucré. Donc il s'appelle comment d'ailleurs ?
Amour sucré New Gen, je crois.
New Gen, ouais.
Ouais. Ouais, Amour sucré, on en avait parlé il y a un an avec Feu Héloïse Linossier.
Vous vous souvenez d'Héloïse Linossier ?
On l'aime toujours, hein, vous inquiétez pas. Qui avait fait un gros dossier sur l'Otome Game à l'époque. Et Yael, donc, voulait voir un peu si cette nouvelle version d'Amour sucré, qui est sortie il y a quelques semaines, mois maintenant, avait appris de ses erreurs, en fait. Puisqu'on avait reproché à ce jeu de véhiculer des stéréotypes un peu craignos, quoi.
Oui, bah ça, voilà. Pareil, je suis pas spécialiste, mais ça a l'air de véhiculer un peu toujours les mêmes clichés qu'on voit dans les même le pire soap opéra.
Voilà, c'est ça. Et après check, c'est pas beaucoup mieux.
A priori, c'est pas beaucoup mieux.
Et enfin, ce qui est presque intéressant, et quand je dis intéressant, vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets, c'est que c'est complètement assumé, en fait. C'est pas involontaire.
Ouais.
C'est pas quelque chose de genre, ah ouais, on n'avait pas pensé à ça. Non, c'est fait exprès. Enfin, on véhicule ces stéréotypes à dessein. Et c'est ce qui rend la chose assez intéressante à expliquer.
Et ça a quand même l'air d'être relation toxique the game. Enfin, vu d'ici, j'en sais rien, j'ai pas joué, mais...
Oui, c'est ça, mais je pense qu'en effet, ils le font exprès parce que bah, ça marche et...
Et puis que ça existe aussi.
Ouais, c'est un peu... J'imagine que les gens ont envie de ça aussi, quoi. Il y a un côté un peu, sans doute, je sais pas... une curiosité un peu morbide
elle fait le parallèle Yael avec la Dark Romance qui cartonne depuis quelques années maintenant et on y est complètement quoi.
Ça me rend triste. J'ai été sur la homepage du site et où t'as le profil des dates. Potentiel. Alors déjà, il y a une femme dans le lot. C'est énormément de femmes qui jouent à ça. On considère que le joueur est une joueuse par défaut. Donc il y a plein de dates possibles. Parmi les dates, il y a une femme. Donc déjà, tu te dis donc statistiquement, je sais pas, il y en a combien. Donc ils considèrent qu'une femme sur six est lesbienne, manifestement. et les autres, ils ont tous des profils, mais genre le Dark Sasuke. Ça m'a saoulé immédiatement. Mais oui, je suis peut-être trop vieille pour jouer à ça, je sais pas.
Je sais pas.
Alors que Dream Daddy, ça c'était formidable. Bref, c'est ma seule expérience de ce genre.
Mais
de
si, il a été au Full Boyfriend aussi.
Et c'est vrai, il a été au Full Boyfriend. Mais donc oui, a priori, ça reste un genre très conservateur en fait.
Faut espérer que les joueuses, si c'est surtout des joueuses, font la part des choses. Après, voilà, ça c'est un jeu vidéo, c'est pas non plus un mode d'emploi de ce que doit être une relation.
Sûr.
Et peut-être que voilà, c'est une manière de, je sais pas, d'exulter des choses.
Ouais.
Et si derrière tu reproduis pas ces schémas-là dans la vraie vie, c'est pas très grave, je pense. Enfin, voilà. J'espère que les gens qui jouent à ça ont un recul suffisant, quoi.
Oui, bah c'est ça, comme toujours. Hein. Après, s'il y a vraiment des très jeunes filles, enfin, de perpétuer des clichés comme ça, de dire que, enfin, je préférerais qu'on montre des relations amoureuses équilibrées, quand même, montrer que ça existe, tout simplement. Bref. De quoi parle-t-on également dans ce magazine Tu veux revenir sur des choses en particulier, Kevin ?
Bon, on peut juste dire ouais, qu'on a, on parle deux fois, en gros, de Moon Studio, le studio autrichien qui avait fait les Ori avant. Là, donc, on a essayé leur nouveau jeu, No Rest for the Wicked, qui est en crash test un peu plus loin, et spoiler, qui n'est pas fou. Mais on voulait aussi revenir sur le studio en tant que tel, et notamment son dirigeant, le fameux Malheur, qui porte plutôt bien son nom.
Qui a l'air de bien porter son nom.
Qui est Thomas Malheur, donc il y a des prises de position assez affligeantes en permanence, qui se prend un peu pour Elon Musk, grosso modo, hein, à faire des déclarations un peu, tu vois, sous couvert de franc-parler, absolument détestables. Donc voilà, c'était pour dire qu'on peut faire des très jolis jeux et être un gros con. C'était un peu
c'est ça qu'on aurait dû mettre comme titre.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Bah, et a priori, voilà, comme tu dis, son nouveau jeu, en plus, a l'air pas ouf.
Bah, en l'état, en tout cas, il ne l'est pas. Après, c'est de l'early access.
Fanny n'a pas du tout aimé le...
Et puis, si elle a un papier assez cool sur Silent Hill, et pas n'importe lequel, le Silent Hill Ascension. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est possible. Ouais. Enfin, vous n'ayez pas honte. Le Silent Hill Ascension, c'est un projet... comment s'appelle cette boîte déjà? J'ai Envid en tête. Genvid, oui, voilà. Qui avait déjà fait pas mal de projets transmédia.
Genvid, on dirait.
Ouais, Genvideo.
Le surnom de Jean Vidéo, tu sais, quand il part en classe en Angleterre.
J'en avais parlé, moi, parce qu'ils avaient fait un Walking Dead un peu sur le même principe, où c'était un jeu vidéo Walking Dead qui se passait sur Facebook, et en fait tu choisissais à l'aide de vote démocratique un peu le sort que tu allais réserver à certains personnages, comment allait se dérouler la scène suivante, etc. Ils ont voulu faire à peu près la même chose avec Silent Hill, et qui a été considéré très très vite comme un incroyable nanar. Et du coup, on est revenu un peu sur ça. C'est Louis qui est un peu revenu, pas pour détruire le projet, mais plutôt pour essayer de voir si des gens avaient participé à ça, et enfin participé au sens en tant que spectateur actif, quoi. Et si l'expérience finalement, même si elle a pas percé, est-ce que elle était si détestable que ça? Donc c'est un papier plutôt rigolo au final sur une sorte d'histoire de naufrage.
C'est toujours rigolo, les naufrages.
Ouais,
évidemment.
Mais surtout quand on l'aborde avec un peu de tendresse.
Ouais, ouais, ouais. En portrait, ce mois-ci, un compositeur qui s'appelle Hiponeco.
Oui.
C'est Michael qui a fait le portrait. Encore une nouvelle plume, je dis que j'allais le dire souvent.
Michael Garnet, plus connu sous les internets sous le pseudo de Motor Mike, qui s'occupait de Game Cult. J'en parle malheureusement à l'imparfait, hein, parce que je crois que l'émission et Game Cult de manière générale, ça va pas très très fort.
Ça va pas fort.
Et en fait, à la base, le sujet, en tout cas, donc, du compositeur Hiponeco, devait être si ce n'est un article, ou en tout cas un sujet, un reportage sur Game Cult, qui est tombé un peu. Tel Noé, accepté bien volontiers de...
J'ai plus l'impression qu'on est le radeau de la Méduse, mais bon.
Et ben, on sait pas, hein, peut-être que tu vois, c'est l'arche qui a eu heurté un iceberg. L'arche de Noé a heurté un iceberg, il restait quelques planches, nous on est dessus. On dit, bah allez, viens, de toute façon, soit tu te noies, soit tu viens avec
nous. Tu coules avec nous, mais bon.
Donc
voilà.
Les gens se noient, préfèrent la plupart du temps. Mais Michael s'est dit, tiens, allez, laissez-moi une petite place sur cette planche. Et donc, non, bon, blague à part. Donc, il a transformé son papier à la base en portrait. Et donc, Hiponeco, on a pu entendre son travail sur Promenade, dont on a parlé en bien il y a quelques mois.
C'est vrai.
Le petit jeu Promenade. Voilà.
On a un dossier
ouais, on a le décodé Hooded Horse.
Ah voilà, c'est Jules qui s'occupait de ça.
Ouais. Bon,
le, on va dire, tout ce qui va être stratégie, gestion, c'est pas forcément notre tasse de thé, ou notre dada, si je puis dire, pour être...
Parce que Oudenors, parce que le cheval, studio, Christophe, t'as compris.
Ah d'accord, oui.
Bah surtout depuis le départ de Yann François, qui était un petit peu... Enfin voilà, tu lui mettais des trucs comme ça, il aimait
les
bien.
Le chiant, il aimait bien,
ouais. Non. Et donc, pour aborder ces sujets-là, on aime bien prendre des pas de côté, et pas forcément bah, juste... en parler dans des critiques où on n'aurait pas forcément l'expertise nécessaire. Et là, du coup, on s'intéresse donc à ce studio qui a fait Mars Tactics, pardon.
C'est pas facile à dire.
Ou Norland, plus récemment. Et donc, c'est un éditeur texan qui a la particularité, donc, bah, déjà, d'avoir pas mal de succès ces derniers temps, mais aussi d'avoir, on va dire, un mode de fonctionnement et un modèle économique assez novateur et assez progressiste. Ce que je disais en stream la dernière fois, t'associes pas forcément Texas et progressiste.
Non, assez rarement même.
Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment ils envisagent leur catalogue de jeux, comment ils rémunèrent les développeurs avec qui ils travaillent, parce que, oui, donc, je répète, c'est un éditeur.
Oui, c'est eux qui éditent aussi Manor Lords, par exemple.
Manor Lords, tout à fait, ouais. Et donc voilà, c'est un petit reportage avec des intervenants qui nous expliquent depuis le Texas. Comment ils fonctionnent, et c'est assez cool comme papier. Très chouette. Et ce que j'ai dit à Jules quand il me l'a rendu, j'ai dit putain, ça fait plaisir de voir un truc un peu positif dans ce numéro.
C'est vrai. La petite touche de lumière.
Voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit après les crises psychotiques, les crises économiques, les jeux dépressifs et compagnie. Oh putain, un truc, des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir.
Eh bien, la partie critique commence pas trop sur des bonnes nouvelles non plus, parce qu'a priori, on n'a pas trop aimé Harold Alibut.
Ouais, Christophe Butlet. Oui, non, c'est, ouais, c'est compliqué, parce que le début est vraiment affreux, et je pense que 90% des gens vont abandonner, parce que vraiment, c'est tout ce qu'on n'a pas envie dans un jeu narratif. Et la suite est bien, quoi, mais ça me fait toujours chier. C'est comme quand on dit « Attends, la saison 1, la 2 est mieux ». Et là, c'est quand même très long avant que ça devienne bien.
Attends la saison 8.
Mais il y a vraiment des belles choses sur la fin et tout ça. Donc voilà, je suis plus énervé que vraiment déçu par le jeu. Mais voilà, j'en garde quand même quelques belles choses au final.
Ah là là.
Et bah, juste, le contre-avis est signé Amandine, qui est une nouvelle plume. Amandine, c'est particulier, elle a fait un stage tout le long du mois, avril-mai. Stage...
secrétaire de rédaction.
Voilà, plus orientée secrétaire de rédaction. Donc, elle a bossé sous l'égide d'Élise Lobier, que tu as horriblement jeté sous le bus un peu plus tôt.
J'ai dit la personne qui a fait le calage.
Ouais.
On ne sait pas.
C'est elle.
Non, mais c'est pas elle.
Mais Amandine écrit très bien également. Donc, non seulement elle a dû corriger nos innombrables fautes, mais elle a en plus écrit un petit texte où elle est un peu sur la même longueur d'onde que toi, hein, grosso modo.
Oui, globalement, oui.
On a quoi d'autre ? On a quand même, si regardez, Stellar Blade et Top Spin, ça vous avez bien aimé tous les deux, quand même.
Ouais, Stellar Blade, je me sens sale, mais j'ai trouvé ça bien, quand même.
Ah, là, là.
Alors que bon.
Et c'est quand même le mois où est sorti Hades 2.
En Early Access, ça, c'est chef-d'œuvre absolu.
Hein, d'habitude, on met pas d'Early Access, machin. Alors là, rien à foutre. Hein.
Bah, en fait, à la base, pour moi, c'était du crash.
Et le calage, hein, on critique, mais là...
C'est quoi le... Ah non, je crois qu'il y avait encore un problème de calage. Je suis tellement habitué maintenant que...
J'ai remarqué un truc que vous avez pas vu entre-temps. Mais
en fait, à la base, le crash test, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux en Early Access en même temps. On avait le Rogue Prince of Persia, on avait le jeu de Moon Studio. Et on s'est dit, on va pas faire un quart de page sur Hades 2, quoi.
Bah non, du coup, on a fait deux pages.
Du coup, on a fait deux pages, parce que avec Fanny, on y a joué, et on a surkiffé tous les deux.
Bah oui, je vois ça. Ça fera jurisprudence. Hein.
Bah, en maquette, on aurait pu rajouter crash test aussi dessus, mais bon, tu n'y as pas pensé. Et puis, c'est quand même ce que je disais l'autre jour en stream, c'est que Là, on est quand même sur un jeu qui sera GOTY 2024 et GOTY 2025, du coup, quand il sortira en version 1.0. Donc, il peut bien avoir deux pages dans le mag.
On n'a pas le droit d'early access dans les élections de GOTY.
Exactement.
C'est vrai. Bon, bah, peut-être qu'ils le sortiront le 31 décembre.
Je cancel ces deux pages.
Bon, on a quoi d'autre?
C'est vrai, vous avez raison.
Non, mais moi, je suis plutôt pour qu'on change les règles. On a du Ayuden Chronicle, du Botany Manor, Another Crab's Treasure, Indica, Animal Well, tout ça. C'est
pas mal de jeux. Hein.
Pas mal de jeux, ouais. Et pas mal de...
De contents. Hein.
De, ouais, ouais. Il y a quelques...
Il y a tout.
Là, vous en aurez pour tous les goûts, comme on dit, oui.
Non, Animal Well, c'est... Moi, j'ai envie d'y jouer, ça a l'air fou.
Non. Si,
ouais,
t'as peut-être envie, mais.
Mais je pense... c'est pas pour moi?
Ouais, je crois pas.
Ah bon, d'accord. Mais je sais pas, il y a animal dans le titre.
Ouais, mais.
Ouais, non, c'est trop.
Je sais pas.
Non, mais je te crois.
Ça a l'air Noitaesque, un peu.
Noitaesque?
Je sais pas.
Noita, j'aime bien. J'aime bien quand Corentin en parle, mais j'ai pas envie d'y jouer, c'est nul.
Mais j'ai quand même mis une capture avec des capybaras, écoute.
Ah bah plaisir. Voilà.
C'est ça, oui. Mais moi, je prends aussi. Moi, je pense que c'est genre. Je préférais regarder quelqu'un y jouer que y jouer moi-même.
Ouais, moi, ni l'un ni l'autre, mais ouais.
Non, moi, j'ai en parlé. Moi, je veux pas regarder Corentin y jouer, c'est horrible. En plus, regarder
j'ai
Corentin.
J'ai dit quelqu'un, pas Corentin.
Non, mais Corentin jouer, en plus, c'est affreux parce qu'il fait des pauses, il fait des trucs. Enfin, je veux dire, voilà.
Il coupe les cinématiques. Bon, là, il y en a pas, mais.
Mais en parler, c'est super. Le rejouer, hein.
Oui, on rejouait 20 ans après, mai-juin 2004. Qu'est-ce qui est sorti
en... Oh putain, c'est tellement loin,
mai-juin 2004, il y avait Breed sur PC.
Oh là là.
Alors j'avoue que là moi, terrain inconnu pour moi.
Je découvre le jeu, là.
Ah oui.
Mais alors, attends, parce que... Là, pour le coup, on enregistre le JV Le Pod très tard, et cette page-là, je l'ai écrite au tout début de la prod.
Très tôt.
Ouais, donc tu t'en souviens plus.
Si, je me rappelle vaguement que Breed, en fait, c'est un... C'est pas vraiment un vaporware, enfin c'est un peu un vaporware, mais c'est surtout un jeu qui a eu une énorme hype à son annonce et qui est sorti.
Et qui a floppé.
En fait, ce qui est assez drôle, c'est de relire pas forcément les critiques du jeu, mais ouais. Les previews.
Les attentes, ouais.
Les previews où ils disaient que ça allait défoncer Halo, etc. Et bon, au final, le jeu est passé complètement inaperçu.
Bah oui.
Donc voilà. Et puis voilà, oui, non, rien de... Si, je parle aussi du fait que j'étais un peu jaloux, parce que, donc, il y a 20 ans, il y avait Fumble de Joystick qui était allé visiter, enfin, faire un tour du studio de Valve et ouais. Jouer Half-Life 2 pour la première fois. Donc ça
petite jalousie, oui.
Oui, ça devait être pas mal, quand même.
En Try Again, Arnaud revient sur Shadow of Memories.
Mmh.
Sur PS2.
Là, des belles images. Hein.
Ah, là, vraiment, j'ai été gâté.
Ah non, mais en plus, là, c'est...
C'est pas PS2, ça.
Bah, oui, non, c'est upscalé à l'émulateur. Ça se voit tout de suite.
Mais, on fait ce qu'on peut pour avoir des images pas trop dégueulasses.
Ouais, ouais. Donc oui, bah, c'est des... En plus, là, c'est PS2 et début PS2. Donc là, on est vraiment sur des jeux assez, assez atroces. Mais jeux intéressants sur lesquels revenir. De toute façon... Arnaud qui continue d'explorer un peu les ludothèques interlopes.
Il arrive à nous avoir sur certains jeux, quoi. Mais faut pas qu'on se laisse faire. Parce
que... en jukebox, ce mois-ci, Cœur de Pirate.
Ouais, oui, étonnant. Hein.
Qui, étonnamment, donc, a fait la musique de jeux vidéo. Elle a fait la BO de Child of Light.
Ouais, à l'époque, Child of Light, c'est sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais.
Ouais.
Bah, c'est ça, très précisément. Bah voilà, oui, c'est rigolo comme... Avant de, elle a fait ça. Après, elle a fait Danse avec les stars. Voilà.
Ben voilà.
Cœur de pirate résumé en une phrase.
Mais la fin est triste parce que il demande pourquoi elle a jamais eu d'autres expériences et
personne. Elle a fait Danse avec les stars.
Personne n'y a jamais demandé. En
dans
fait.
Le jeu vidéo, ouais.
Dans le jeu vidéo. Et...
Si vous faites un
alors
jeu
c'est
vidéo,
c'est vrai qu'elle est très bien. Cette
demandez
BO.
Peut-être à Cœur de pirate de faire la BO. Peut-être qu'elle sera contente de refaire de la musique de jeu vidéo.
Mmh.
En artbook, on vient sur le travail de Marina Gonzalez qui a fait la direction artistique de The Cosmic Wheel Sisterhood,
dont on parle absolument tous les mois, je
oui
crois.
C'est devenu obligatoire, mais qui a un pixel art superbe
ouais,
et elle avait travaillé avant sur The Red String Club.
Ouais.
Qui est pas dégueulasse non plus.
Qui est pas dégueulasse. Qui est pas génial, enfin en termes de jeu.
Mais en termes de DA, c'est oui, oui. superbe. Donc là, j'avoue, là, voilà, là, ça me fait plaisir ce genre de page.
C'est une très belle double page.
Là, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. J'ai dû me faire violence pour choisir. C'était dur de choisir toutes les images. Ensuite, ah là là. En Director's Cut, Minami Lane. Vous avez joué à Minami Lane un petit
non,
peu?
Non, moi, je n'ai pas joué.
C'est très mignon.
Bah, je vois ça, oui. Enfin, j'ai vu ça quand on m'a proposé l'article.
Et donc, oui, Yael a interviewé Dorian Randria, qui est donc la directrice artistique.
Bliploop.
Oui, son pseudo, c'est Bliploop. c'est un... Alors, que je ne dise pas de bêtises, ils sont deux à avoir fait ce jeu.
Ouais.
C'est un couple, même.
C'est un couple.
C'est vraiment un jeu qui a été bricolé par deux personnes. Tu joues... c'est un plan fixe, comme ça, en 3D isométrique, enfin... Tu joues une petite rue qui s'appelle la Minami Lane et c'est toi qui va acheter des petits commerces pour faire venir les gens dans ton commerce, vendre les choses que les gens ont envie de consommer. C'est un petit
c'est un SimCity sur une rue.
Oui, oh, mais c'est très 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 simple, très mignon et avec une décoration très japonisante et tout. C'est adorable.
Est-ce que tu peux faire boum boum Villette?
On peut pas faire boum boum Villette dans Minami Lane.
C'est dommage.
Mais il faudrait qu'on fasse boum boum Lane peut-être. Écoute, on va se pencher sur l'idée. En spoiler, Olivier revient sur The Crown of Leaves, un point and click que je connaissais pas à titre personnel.
Oh bah, de toute façon, c'est un peu le principe.
Oui, voilà.
Bah, je pense qu'il essaye de trouver des jeux qu'on connaît pas à chaque fois. Bah,
un jour, il va en inventer. Hein. Et personne s'en rendra compte. Hein.
Et je crois qu'il va déjà parler des suivants. Et c'est pareil. Hein. Il m'a parlé du prochain spoiler. Et...
Ah, c'est bien, on découpe les choses.
Voilà. Et toujours Olivier, de tout temps, la sorcière ce mois-ci. Du coup, on retrouve la sorcière de The Cosmic Wheel Sisterhood. Mais on pouvait pas passer à côté. Ouais. Et plein d'autres. Et ça, c'est... évidemment.
Il y a Agatha. Je reconnais Agatha.
Je suis très sorciérophile, hein, donc forcément, c'est une sélection qui m'a bien plu. Surtout, celle de Medieval qui se transforme en grosse citrouille. Oui. C'est pas tout à fait la même ambiance que Bayonetta, par exemple.
C'est ça.
En vue subjective, toujours Olivier. Il a vraiment ses pages dédiées.
Bah oui. Hein.
Ce mois-ci sur The Paint Creek
Kings. Il est confiné, en fait.
Oh, il est confiné.
J'en veux pas qu'il déborde un peu. Il nous ferait peur.
Non, mais déjà qu'il nous fait des 6000 signes pour les vues subjectives. Il a le droit au max de signes. Il fait le max. Ouais. Voilà, c'est un homme qui a beaucoup de choses à dire.
The Paint Creek Kings, ouais, en cowboy. Alors là, pour le coup, pareil, j'ai jamais entendu parler avant de lire cet article. Qui... Ouais,
jeu d'enquête qui a l'air.
Ouais, ça a l'air assez, hyper intéressant. Ouais.
C'est intéressant, ouais.
Ah, l'histoire, c'est Arnaud qui est revenu sur le studio Tale of Tales.
Bien sûr.
Qui a une histoire particulière dans le sens où c'est pas forcément des gens qui voulaient faire des jeux vidéo, ou en tout cas pas au sens commercial du terme, mais plutôt par des artistes, des plasticiens qui voulaient entreprendre dans le jeu vidéo des choses artistiques.
Oui, c'est ça. Ils servaient de ce média comme ils auraient pu se servir d'un autre, mais c'est un moyen d'expression intéressant pour eux. On en parle au passé parce que donc ils ont arrêté de faire du jeu vidéo en 2015, juste après Sunset, dont on avait beaucoup parlé nous ici, notamment
Sylvain. C'était son jeu.
Gabi.
On avait fait un ZQSD, on avait beaucoup parlé. Moi, je sais que Sunset, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu.
Aussi. Ouais, c'est ça. Donc Tale of Tales, bon, ils n'ont pas fait que Sunset, ils avaient fait quelques jeux avant, et notamment celui qui est en ouverture.
Oui, bah, Luxuria Superbia.
Voilà.
On en avait parlé dans le numéro sur le sexe, très longtemps.
Et on aurait presque pu en parler dans le numéro sur la vulve, mais c'est
non,
pas tout à fait.
Ouais,
non,
ouais.
Non, anatomiquement, c'est un peu différent, vous verrez. mais en tout cas, donc, c'est un papier hyper intéressant. Donc, ils reviennent un peu sur... parce qu'on a eu donc, les créateurs en intervenant qui reviennent sur toute leur odyssée et parlent un peu de ce qu'ils font aujourd'hui.
Ouais, et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir un point de vue. Ben, c'est complètement différent de la plupart des studios qu'on a déjà rencontrés. Leur démarche, elle est vraiment très particulière.
Ouais, c'est cool. Très, très cool.
On termine le magazine par le hors-jeu. On va avoir évidemment des critiques.
Sugar, chef-d'œuvre.
Sugar, chef-d'œuvre. Abigail, t'as bien aimé, Christophe. Voilà, écoutez. Un bon numéro de JV Le Mag,
Juste en anti-sommaire, on fait un petit programme des conférences, puisque nous sommes en juin.
Et c'est le None 3.
C'est le None 3, et du coup, on en a mis quelques-unes, bon, sachant qu'il y a déjà une coquille, façon de parler, c'est que j'avais pronostiqué que Sony prendrait la parole entre le 8 et le 12 juin. Bon, ils ont fait ça le 30 mai.
Oui, ah là là.
Je ne pouvais pas savoir.
Mais non.
Mais bon.
On espère qu'ils reviennent pour montrer des vrais jeux aussi.
C'est vrai que, en même temps, c'est vrai qu'ils auraient pu attendre 2 semaines de plus pour s'ils avaient que ça en magasin, c'était pas la peine, quoi.
Mais sinon, avant de terminer ce podcast,
très important,
on va avoir une petite, un petit segment un petit peu promotionnel, hein, la petite jingle de pub.
Parce que jusqu'à présent, pas du tout.
Pas du tout, bah non.
Là, si on vous a pas découragé de lire JV, je ne sais pas ce qu'on doit dire de plus.
Mais d'ailleurs, dès que nous allons arrêter ce podcast, nous allons lancer une nouvelle formule d'abonnement. Mmh. Il se trouve que Ulule, que a priori, si vous nous suivez depuis un moment, vous connaissez, vous avez déjà un compte Ulule. Parce que
vous êtes pauvre.
On s'est déjà coquiné avec ces personnes-là. Donc Ulule, qui est une plateforme de financement participatif à la Kickstarter, on va dire, vient de lancer un nouveau service, on va dire, qui va ressembler un peu à Patreon, avec un système d'abonnement en paiement mensuel. Nous, ça nous a assez vite intéressés. On se disait que c'était une formule qui correspondait à des besoins qu'on cherchait depuis un petit moment pour remplacer notre formule d'abonnement de soutien qui existe depuis maintenant plusieurs années, que vous connaissez peut-être que vous êtes déjà abonné par cette formule qui passait directement par notre site via un système de paiement mensuel par PayPal qui, nous, ne nous satisfaisait pas tout à fait. C'était pas très clair, enfin c'était pas très souple.
Ouais, pas pratique.
Le fonctionnement interne de PayPal est assez.
Nébulax,
usine à gazax, comme on dit. Et ça faisait un moment qu'on essayait de trouver une façon plus claire, plus souple. Et il se trouve que la formule que propose Ulule nous intéressait beaucoup. Et voilà, on va se lancer. Tu veux, Kevin?
Ne serait-ce que, pour donner un exemple tout bête, c'est quand il s'agit d'appeler Internet, qu'on a un problème.
Ouais.
Appeler PayPal, c'est l'enfer.
Ah, c'est l'enfer.
Quoi. Alors que Ulule, on a toujours des correspondants, j'ai envie de dire. Donc rien que pour ça, c'est pratique. Et puis, en fait, surtout, ce que ça va permettre, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup insisté là-dessus, parce qu'on n'y pense pas spontanément, mais. Ça nous permet de proposer un abonnement numérique.
Numérique.
En fait. Ce qu'on ne faisait pas depuis qu'on avait abandonné les applis.
Qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Et pareil, c'était des usines à gaz. Et là, nous, tout ce qui nous manquait pour pouvoir proposer un abonnement numérique, c'est une plateforme.
Avec une base de données claire.
C'est vraiment des contraintes techniques, tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Nous, on vend les PDF sur notre site à l'unité, mais il n'y avait pas de système pour que ça soit automatisé. Mais là, il se trouve que sur Ulule, vous pourrez, pour 4 euros par mois, tous les mois, en fait, on publiera une news sur Ulule qui sera réservée à ce palier-là. Cette news contiendra tout simplement le PDF du magazine et vous recevrez directement.
DRM free.
Oui, c'est vraiment du PDF. Oui, hein, on sait que ça va...
Ça va circuler, mais en même temps... Hein.
Oui, voilà. Mais donc, vous recevrez cette news avec le PDF en pièce jointe, dans vos mails,
derrière,
et directement sur
ce que vous voulez,
sur les
tablettes, sur les téléphones.
Et donc ça, on est déjà très content de pouvoir proposer
ça. Oui, c'est vrai que c'est... Tu vois, moi, j'y pense pas spontanément, parce que c'est pas dans mes habitudes de lecteur, de consommateur. Moi, je suis attaché au papier, sinon on ferait pas ce métier-là. Mais, mais c'est vrai que, en fait, j'ai été surpris, en fait, de voir que des gens disent « Ah, c'est super !» Retour de la... même Héloïse, elle en a parlé, tu vois.
Ouais.
Donc, insistons là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne proposait pas jusqu'à présent.
Exactement. Donc, pour 4 euros par mois, vous avez juste le PDF, vous vous encombrez plus du papier. Pour 6,50 €, c'est la même formule qu'avant, c'est-à-dire vous recevez le magazine papier.
Dès qu'il sort,
envoyé en même temps que les abonnés. Et du coup, maintenant, on peut proposer une formule à 10 euros par mois avec le magazine et le PDF. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on vient de dire. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire depuis un moment. Et donc, on est très content de pouvoir proposer ça maintenant.
Pour pouvoir lire, tu vois, tout de 24 heures sur 24, en fait.
Ah bah là, oui, t'as pas le...
Oui, voilà, tu pas t'encombrer tu avec le magazine.
Voilà, tu prends ton magazine à la plage.
Tout le monde le lit aux toilettes, de toute façon.
Voilà.
mais si, par exemple, t'es aux toilettes, et t'es en train de lire ton magazine, et là, coupure de courant, t'es dans le noir, hop, tu sors le téléphone et tu finis ton article.
Voilà. Parfait.
Et bah tu vas remettre le disjoncteur. Enfin, je vais pas faire toute
non,
la
non, on va pas
toute la scène.
Toute l'histoire.
Non, parce qu'à un moment, ce serait un peu dégueulasse.
Lavez-vous bien les mains. Lavez-vous les mains.
Voilà.
On a une quatrième formule à 15 € par mois. Où là, c'est la même chose. Vous avez le magazine papier, le magazine numérique, et des remerciements dans le podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter. Maintenant,
donc dès le prochain, en fait.
On fera une nouvelle rubrique où on remerciera les abonnés Ulule.
Est-ce que ce serait pas Bubu qui les qui dirait ces remerciements personnalisés?
Ouais, je listerai chaque nom avec un mot à chacun.
Oh putain, l'engagement. Ouais, oh, ça va être génial.
15 € par mois, Bubu dit votre nom. Oh là là.
Avec des ASMR bisous à chaque fois.
Appelle Ulule pour 100 balles. Christophe, il fait votre sonnerie de répondeur, enfin votre message de répondeur.
Les air bisous, c'est bien, mais ASMR bisous.
C'est horrible.
Oui, on sortira au moment où il a envie, parce que je suis pas sûr de pouvoir supporter
ça. Moi, je vais faire la vaisselle.
Oui, je pense que je. Voilà, waouh.
Et enfin, on n'a pas dit comment s'appelaient les paliers.
Ils
découvriront.
On a un dernier palier, vraiment le meilleur. Ouais. 50 € par mois. Franchement, c'est quoi 50 € par mois?
Bah, c'est rien.
C'est pas grand-chose. C'est notre salaire. Bon, non, c'est pas vrai. Pour 50 € par mois, vous avez évidemment le magazine en papier et en numérique. Et en plus, et les remerciements dans le podcast hein, quand même, à chaque fois, vous serez convoqué à la rédac. Vraiment, venez nous voir, nous, là, en vrai. À chaque fois qu'on aura besoin de porter des trucs lourds.
Ouais. Ce qui arrive assez régulièrement. Hein.
Ça arrive régulièrement. On a besoin de porter
plusieurs
des trucs
fois
lourds.
Par semaine.
On vous appellera. Et vous serez convoqué, vous viendrez.
Ah oui, par contre, vous n'avez pas le choix. Enfin, je veux dire,
ah bah oui, c'est obligatoire.
Oui. C'est le principe, quoi. Vous donnez de l'argent et vous avez des obligations.
Bah oui, ça, parce que c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir des droits, mais c'est important d'avoir des devoirs aussi.
C'est donnant-perdant.
Donnant-recevant, je sais pas.
Donc là, enfin voilà, moi, pour moi, la question est vite répondue.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai déjà pris le mien.
C'est vrai, donc t'as pas le choix.
Mais donc voilà, c'est donc une nouvelle formule qu'on va lancer. Bah juste, nous, on va arrêter ce podcast, on est lundi 3, on va lancer ça, on va faire un petit stream. Ulule, c'est un nouveau service qu'ils proposent. Il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités. Il y a sûrement des choses qui vont s'affiner au fur et à mesure.
Ouais.
Même nous, donc on se lance aussi là-dedans.
Il y a deux publications qui nous ont précédés, c'est Canard PC et Geek.
C'est Gastronogeek. Et je sais que maintenant, depuis, j'ai vu aussi deux autres personnes. Enfin, vraiment, en France, on va être parmi les tout premiers à essayer ce nouveau service. Donc, on va aussi avoir des. Peut-être que voilà, on va pas essuyer. Le mot essuyer les plâtres, j'espère pas. Mais par exemple, on sait pour l'instant que. Première question qu'on nous a posée, est-ce que c'est possible de mettre un montant personnalisé, par exemple? Pour l'instant, c'est pas le cas. Ulule va travailler dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Mettez 50, si c'est que.
Si vous n'avez pas. Mais donc voilà, là, de toute façon, on va rédiger une petite FAQ qui sera sur la page Ulule. On va essayer d'en parler beaucoup dans les jours, semaines, mois qui vont venir. Et puis, vos retours aussi vont être importants pour que nous aussi, on puisse voir avec Ulule pour affiner le programme, pour essayer de s'améliorer. Voilà, donc c'est vraiment tout nouveau et on espère...
Et si vous êtes déjà abonné à notre abonnement de soutien donc via PayPal, on vous invite...
On vous encourage
à faire la bascule.
Ouais, donc il faudra annuler directement sur PayPal avant votre prochaine échéance, histoire que vous ne payiez pas deux fois, ça serait bête quand même. Et de vous inscrire sur Ulule, ça sera quand même plus simple, ne serait-ce que pour suspendre l'abonnement ou l'annuler ou changer votre adresse ou toutes ces choses-là qui seront beaucoup, beaucoup plus simples sur Ulule que sur PayPal. Et puis voilà, on espère. Et puis que la formule numérique pour les gens qui habitent loin ou qui n'ont plus de place, ça sera plus pratique. Et voilà!
Bah voilà.
De toute façon, on va aller enregistrer, on va faire un petit stream qui nous servira de FAQ et puis
allez.
Et on vous tiendra au courant de tout ça.
C'est parti.
C'était un beau numéro, le numéro 108. L'enthousiasme, vraiment. Non, allez.
En fait, je cherche. En fait, depuis tout à l'heure, à partir du moment où Bubu a parlé de faire la bascule, je cherche à faire une blague avec Roland Garros, bah oui, France bah Télé. Oui. Bah oui, c'est pour
je
ça.
T'es tendu la perche.
Mais ouais.
Mais je crois qu'on va s'arrêter là.
Oui, oui, parce que je veux dire, si j'avais fait cette blague, elle aurait été mauvaise. Donc heureusement, je ne l'ai pas faite. J'ai dodgé la belette.
Dodgé la belette. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là.
Allez,
oui. Merci Kevin, merci Christophe.
Merci Sophie.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve le mois prochain.
Bye.
Bye bye.